La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui les conseillers référendaires
Florence Olivier
et Alain Carillon. Bonjour Alain.
Bonjour Florence. Avant de faire un focus sur les liaisons dangereuses que peuvent entretenir le pouvoir disciplinaire de l'employeur et la vie privée du salarié, nous commençons par évoquer l'actualité de la Chambre sociale avec deux décisions qui portent pour la première sur les conditions dans lesquelles la validité d'un accord collectif peut être invoquée et pour la seconde sur la validité des clauses d'un accord collectif portant sur la négociation collective. Commençons avec notre premier arrêt du 1er octobre 2025 par rappeler dans quelles conditions la nullité d'un accord collectif peut être invoquée. Les ordonnances du 22 septembre 2017 ont élargi les prérogatives des partenaires sociaux en matière de négociation collective. Pour sécuriser les accords collectifs conclus, le législateur a introduit dans le Code du travail un court délai de forclusion pour les contester.
En effet, l'article L2262-14 du Code du travail prévoit que toute action en nullité de toute ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ou de la publication de l'accord dans tous les autres cas.
Ce délai de forclusion, en vigueur depuis le 24 septembre 2017, a ainsi considérablement réduit le délai de l'action en nullité qui était auparavant soumise au délai de prescription de droit commun. Mais le Conseil constitutionnel a toutefois ouvert l'exception d'illégalité d'un accord collectif aux salariés.
Oui Alain, le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision du 21 mars 2018 que l'article L2262-14 ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif à l'occasion d'un litige individuel la mettant en œuvre.
Dans la continuité de la décision du Conseil constitutionnel, la Chambre sociale de la Cour de cassation a ouvert l'exception d'illégalité à d'autres parties non signataires de l'accord litigieux.
En effet, dans les arrêts du 2 mars 2022, la Cour de cassation a ouvert également cette possibilité au comité social et économique et au syndicat non signataire d'un accord collectif, uniquement pour la défense de leurs droits propres, résultant de l'exercice de leurs prérogatives légales dans l'entreprise.
Et la question posée dans l'arrêt du 1er octobre 2025 porte également sur l'ouverture de l'exception d'illégalité, mais sous un angle différent. Il s'agissait de savoir s'il était possible d'invoquer une exception d'illégalité d'un accord de branche ayant été étendu par arrêté d'extension sans contester l'arrêté d'extension devant le juge judiciaire.
Rappelons qu'un accord collectif de branche n'est applicable à une entreprise que sous 2 conditions. Son champ professionnel et géographique doit correspondre à l'activité de l'entreprise. L'entreprise doit adhérer individuellement à l'accord ou être membre d'une organisation patronale adhérente ou signataire de l'accord. L'arrêté d'extension élargit l'effet obligatoire de l'accord collectif à tous les employeurs du champ professionnel concernés.
Et dans l'arrêt qui nous occupe, les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu un accord collectif relatif au régime de couverture des frais de santé des salariés intérimaires ayant donné lieu à un avenant. Cet accord et cet avenant ont été étendus par arrêté du ministère concerné.
Des organisations syndicales ont assigné une société et l'organisation patronale signataire de l'accord de branche aux fins notamment d'annulation de la décision unilatérale de la société. Ces organisations syndicales soutenaient que cette société avait substitué en partie à ce dispositif conventionnel obligatoire issu d'un accord de branche étendu un régime de frais de santé issu d'une décision unilatérale.
La société a invoqué par voie d'exception l'illégalité de certaines dispositions des accords étendus sans invoquer l'illégalité des arrêtés d'extension.
Or, la Chambre sociale n'a jusqu'ici admis que les exceptions d'illégalité à l'encontre de l'arrêté d'extension lui-même.
Et l'illégalité d'un arrêté d'extension peut être soulevée devant le juge judiciaire.
Oui Alain, les accords collectifs conclus entre personnes privées ont le caractère d'actes de droit privé dont la validité ne peut être appréciée que par la juridiction judiciaire. Le tribunal des conflits en a déduit dans une décision du 8 juin 2020 que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur la validité d'un accord collectif et de ses avenants lorsqu'aucun vice propre relevant de la compétence des juridictions administratives n'était invoqué contre les arrêtés d'extension de cet accord et de ses avenants.
Mais pour contester la validité des clauses d'un accord collectif étendu, il faut au préalable soulever devant le juge judiciaire l'illégalité des arrêtés d'extension des accords de branche en cause, même si aucun vice propre de ces arrêtés n'est invoqué.
Et la Cour de cassation juge ainsi, dans l'arrêt du 1er octobre 2025, que l'exception d'illégalité d'un accord de branche étendu n'est pas recevable en l'absence d'exception d'illégalité de l'arrêté ayant étendu le dit accord de branche, quand bien même, en l'absence de vice propre à l'arrêté d'extension, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension. Dans le second arrêt, prononcé le 18 juin 2025, la Cour de cassation précise la latitude des partenaires sociaux lorsqu'ils négocient un accord collectif en matière de dialogue social.
L'article 5 de la directive du 11 mars 2002 attribue une grande importance à la négociation collective. Son objectif est d'assurer aux partenaires sociaux un rôle prépondérant en leur permettant de définir librement, par voie d'accord, les modalités d'information et de consultation des travailleurs. Et comme nous l'avons déjà rappelé, les ordonnances du 22 septembre 2017 ont élargi les prérogatives des partenaires sociaux en matière de négociation collective.
L'article L2312-19 du Code du travail en offre une nouvelle illustration. Il prévoit qu'un accord d'entreprise peut définir les modalités de consultation récurrente du comité social et économique, s'agissant notamment des niveaux de consultation et de leur articulation.
C'est la validité des clauses d'un tel accord qui a été contestée par une organisation syndicale non signataire dans le délai de forclusion de 2 mois dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 18 juin 2025.
Tout d'abord, l'une des clauses de cet accord prévoyait que les comités sociaux et économiques d'établissements institués au sein de l'unité économique et sociale étaient consultés sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi au sein de leur établissement, mais une autre clause les privait de leur droit de recours à un expert lors de cette information-consultation. L'organisation syndicale soutenait qu'il n'était pas possible de dissocier, par accord collectif, le niveau de l'information-consultation de celui de l'expertise.
Rappelons que le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il est institué des comités sociaux et économiques au niveau des établissements et au niveau central de l'entreprise, dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins 2 établissements distincts. Pour exercer ses attributions, le comité social et économique est consulté de manière récurrente, notamment sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Les dispositions supplétives du Code du travail prévoient que les consultations récurrentes sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi sont conduites à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. Le comité social et économique bénéficie également de la possibilité de désigner un expert lorsqu'il est consulté dans ce domaine.
Mais l'article L2312-19 prévoit la possibilité d'un accord dérogatoire sur les niveaux auxquels les consultations sont conduites et sur leur articulation.
Et la Cour de cassation en a déduit, sur le fondement de cet article L2312-19 et de la directive du 11 mars 2002, qu'il était possible de dissocier par accord collectif droit à expertise et droit à information-consultation. Elle a ainsi jugé que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L2312-19 du Code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information-consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement.
Dans cette même affaire, l'organisation syndicale contestait la validité d'une clause de l'accord collectif qui réservait exclusivement aux représentants de proximité la prise en charge des réclamations individuelles et collectives des salariés.
Précisons que la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Et c'est cette mission que l'accord collectif réservait aux représentants de proximité. Mais que sont les représentants de proximité ?
Ces représentants ont été créés pour compenser les effets de la fusion, en 2017, des anciennes institutions représentatives du personnel en une instance unique, le comité social et économique, et notamment la disparition des délégués du personnel qui étaient au plus proche du terrain et des salariés. Un accord collectif peut donc mettre en place des représentants de proximité et définit également leurs attributions, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces représentants sont membres du comité social et économique ou désignés par lui.
Et la Cour de cassation considère qu'eu égard à la mission de ces représentants de proximité, qui est d'être au plus proche des salariés, l'accord collectif pouvait leur réserver la mission de présenter à l'employeur les réclamations des salariés.
Oui Alain, la Cour de cassation rejette le moyen de l'organisation syndicale en considérant qu'un accord d'entreprise peut confier aux représentants de proximité la mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés de manière exclusive. Elle précise toutefois que les salariés conservent, en tout état de cause, le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants au sein de chaque établissement.
L'organisation syndicale contestait ensuite, en invoquant le principe d'égalité de traitement, des clauses de l'accord qui prévoyaient que les délégués syndicaux de l'entreprise bénéficiaient, en dehors des déplacements réalisés dans le cadre d'une invitation de l'employeur, de la prise en charge de leurs frais de déplacement ou d'hébergement, alors que les représentants de sections syndicales ne bénéficiaient d'aucune prise en charge de leurs déplacements, sauf pour les réunions convoquées par l'entreprise. Pour rejeter cette demande, la Cour d'appel avait considéré que les avantages supplémentaires attribués par l'accord collectif aux délégués syndicaux ne privaient pas les représentants de sections syndicales de l'exercice de leurs prérogatives légales et que ces avantages étaient afférents à des déplacements non obligatoires ne résultant pas de réunions convoquées par l'entreprise.
Rappelons tout d'abord quelles sont les conditions de désignation d'un représentant de section syndicale et quel est son rôle. Celui-ci peut être désigné par chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés et qui n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement pour le représenter. Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Sa désignation est effectuée en vue de permettre au syndicat désignataire de préparer les élections.
La question est de savoir quel est le périmètre exact de l'égalité de traitement entre le délégué syndical et le représentant de section syndicale. Le législateur lui-même ne leur attribue pas les mêmes prérogatives, la négociation collective étant réservée aux seuls délégués syndicaux du fait du score électoral obtenu lors des dernières élections par leur organisation syndicale. Et les représentants de section syndicale ne bénéficiant pas du même nombre d'heures de délégation que les délégués syndicaux.
La Cour de cassation juge que si le représentant de section syndicale a le droit de circuler librement dans l'entreprise, un accord collectif peut réserver le remboursement par l'employeur, selon certaines modalités, des frais de déplacement aux seuls délégués syndicaux. Et nous poursuivons la Social de Mag avec notre décryptage qui porte sur la question de savoir dans quelle mesure l'employeur peut exercer son pouvoir disciplinaire sur un élément relevant de la vie privée du salarié. Nous avons déjà consacré le décryptage du podcast numéro 31 de novembre 2024 à la notion de vie personnelle, mais un nouveau point s'impose, compte tenu des évolutions marquées par deux arrêts de 2025.
Oui Florence, ces deux arrêts apportent des précisions importantes. La première, qui résulte de l'arrêt du 26 mars dernier, est que parmi les obligations découlant du contrat de travail figure désormais l'obligation de sécurité. La seconde, qui résulte de l'arrêt du 10 décembre, est que l'employeur ne peut, sans violation de la vie privée de ses salariés, les obliger à lui communiquer des informations sur leur situation familiale.
Avant de revenir en détail sur ces arrêts, peux-tu nous rappeler, Alain, à quelles conditions un employeur peut prononcer une sanction disciplinaire pour un fait relevant de la vie privée du salarié ?
Comme nous l'avons déjà rappelé dans le podcast de novembre 2024, la Cour de cassation juge qu'un fait relevant de la vie personnelle d'un salarié ne peut constituer une faute de sa part. C'est le principe de l'immunité disciplinaire des faits de relevant de la vie privée. Il existe toutefois une exception à cette immunité lorsque son acte constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation l'a d'ailleurs réaffirmé le 22 décembre 2023. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Très bien, ce cadre étant rappelé, revenons-en à nos arrêts et au premier d'entre eux du 26 mars dernier.
Cet arrêt s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence, tout en poursuivant sa construction. En effet, il retient, pour la première fois en matière disciplinaire, que l'obligation découlant du contrat de travail qui est à la charge du salarié peut consister en une obligation de sécurité de l'article L4122-1 du Code du travail.
Qu'est-ce qui était précisément reproché au salarié ?
Il occupait une position hiérarchique élevée dans l'entreprise et avait entretenu une relation extra-professionnelle avec une salariée, positionnée à un rang inférieur sans pour autant être sous sa subordination directe. Elle lui avait signifié à plusieurs reprises qu'elle n'entendait plus entretenir avec lui que des relations professionnelles. Et malgré cela, le salarié s'est montré de plus en plus insistant, allant jusqu'à envoyer un mail dans lequel il se prévalait de sa qualité de membre du comité de direction.
L'employeur l'a donc licencié pour faute grave, pour avoir importuné sa collaboratrice et avoir accru sa pression sur elle, malgré son refus exprimé. La Cour de cassation approuve l'arrêt de la Cour d'appel qui a retenu la faute grave du salarié. Mais quels sont ses motifs ?
D'abord, elle commence par rappeler qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Elle cite ensuite l'article L4122-1, selon lequel tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail.
Il faut donc comprendre que l'obligation de sécurité consacrée par ce texte constitue une obligation découlant du contrat de travail.
Oui, exactement. Et la Cour de cassation approuve l'arrêt qui a constaté que le salarié occupait une position hiérarchique élevée et que son comportement sur le lieu et le temps de travail dans le but d'obtenir une explication sur son DPI amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus opposé constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail. Elle ajoute qu'une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise.
On mesure ainsi tout l'intérêt de pouvoir invoquer, au titre des obligations découlant du contrat de travail, l'obligation de sécurité du salarié. Cela permet de faire entrer dans le champ disciplinaire ces éléments qui peuvent relever de la vie privée des salariés et, par exemple, des faits qui pourraient relever de la qualification de harcèlement. Dans le récent arrêt du 10 décembre 2025, la situation concernait également une relation sentimentale, mais le problème venait de ce que le salarié avait dissimulé son mariage à son employeur.
En effet, il s'agissait du salarié d'une société appartenant à un grand groupe de luxe qui occupait des fonctions d'auditeur interne pour les régions Amérique, Royaume-Uni et Japon. Il avait épousé une ancienne salariée de son employeur. Cette salariée avait exercé les fonctions d'assistante juridique au sein de la société à Neuilly avant d'être licenciée et de saisir le conseil de prud'homme pour contester son licenciement. Le salarié n'avait pas informé son employeur de ce mariage et avait présenté son épouse comme étant une ex-salariée d'une autre entreprise. La lettre de licenciement lui reprochait d'avoir sciemment dissimulé sa situation matrimoniale ainsi que la situation professionnelle de son épouse, dissimulation contraire aux engagements pris en application du code éthique de révéler tout conflit d'intérêts potentiel. La lettre de licenciement ajoutait que cette attitude avait définitivement rompu le lien de confiance indispensable à l'exercice de ses fonctions du fait de ses manquements à la probité et à l'intégrité et entraînant la perturbation du fonctionnement normal du service.
La question était donc de savoir si l'employeur pouvait prendre en compte cet élément de la vie privée de son salarié pour prononcer un licenciement disciplinaire. La Cour de cassation a cassé l'arrêt qui avait retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
D'abord, elle rappelle l'attendu de principe de l'arrêt d'assemblée plénière sur la vie personnelle et ce de façon parfaitement classique. Puis, resserrant son raisonnement sur la notion de vie privée, elle ajoute encore un attendu classique. Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. Et resserrant encore la focale sur la vie familiale du salarié, elle précise, cette fois-ci de façon inédite, que l'employeur ne peut, sans violation de cette liberté fondamentale qu'est le droit au respect de la vie privée, obliger les salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale.
Si je ne me trompe pas, le terme d'intimité a disparu de l'attendu de principe. Auparavant, la Cour retenait que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée.
Oui, c'est vrai. La doctrine s'était interrogée sur la portée de cette intimité et sur les conséquences juridiques qui en découlent. Il semble que la Cour y renonce pour ne garder que trois cercles, la vie privée, la vie personnelle et la vie professionnelle. Il n'y aurait pas de régime juridique propre à l'intimité de la vie privée.
Mais pour en revenir aux possibilités offertes à l'employeur qui découvre la dissimulation d'une relation affective par un ou une de ses salariés, est-ce que cette solution signifie que l'employeur ne peut jamais licencier un salarié pour avoir dissimulé sa situation matrimoniale ?
Non, pas du tout. Il peut déjà le faire pour un motif non disciplinaire, si cette dissimulation a causé un trouble objectif. Il peut également le faire pour un motif disciplinaire si cette dissimulation constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.
Oui, mais en l'occurrence, la Cour de cassation ne retient pas ce manquement. Est-ce que cela ne risque pas de rester purement virtuel ?
Pas du tout. Et la Cour de cassation précise les deux conditions permettant de retenir un manquement à l'obligation découlant du contrat de travail. La situation matrimoniale du salarié doit être en rapport avec ses fonctions. Elle doit être susceptible d'influer sur l'exercice de ses fonctions au détriment de l'intérêt de l'entreprise.
Oui, et dans cet arrêt, la Cour d'appel n'avait pas vérifié que ces deux conditions étaient réunies, alors que l'existence du litige prud'homal opposant son épouse à l'employeur ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un conflit d'intérêts. Il appartient donc au juge du fond de caractériser, par exemple, que le salarié avait accès à des informations utiles à l'épouse dans sa procédure prud'homale. Ainsi, la Cour de cassation semble laisser la porte ouverte à un licenciement disciplinaire pour un manquement du salarié à son obligation de loyauté, mais le passage est étroit au regard de ces conditions.
En effet, il ne faudrait pas que cette exception à l'immunité disciplinaire n'en vienne à renverser le principe ou à faire revivre le licenciement pour perte de confiance, dont on sent bien qu'elle était sous-jacente dans la lettre de licenciement. Pour autant, le manquement à l'obligation de loyauté dans ce genre de situation n'est pas une hypothèse d'école et dans un arrêt de 2024, abondamment commenté, la Chambre a reconnu un manquement à l'obligation de loyauté.
Oui, c'est vrai. Il s'agissait de la situation d'un salarié exerçant des fonctions de direction des ressources humaines qui avait dissimulé la relation intime qu'il entretenait avec une autre salariée exerçant des mandats représentatifs. Dans cette situation très particulière de deux salariés qui étaient chargés de négocier l'un au nom de l'employeur et l'autre au nom des salariés, dans un contexte de conflit social, la Cour de cassation a admis le licenciement disciplinaire parce que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté. La relation intime du salarié était en rapport avec ses fonctions professionnelles et de nature à en affecter le bon exercice.
Et cette solution est la reprise d'une décision plus ancienne de 2014 qui avait dégagé ces deux conditions dans une situation où une salariée avait dissimulé sa mise en examen.
On le voit bien, la jurisprudence de la Cour de cassation est en permanence en construction sur ces questions de vie privée et notamment sur les questions de conflits d'intérêts qui sont de plus en plus présentes dans les litiges de droit du travail. Mais des lignes directrices se dégagent nettement. Le principe constamment réaffirmé demeure qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Parmi ces obligations figure l'obligation de sécurité, qui permet à l'employeur de sanctionner un fait de harcèlement commis par un salarié alors même que ce fait a été commis dans le cadre de la vie personnelle. Figure également l'obligation de loyauté avec cette précision que le manquement ne sera retenu que dans le cadre délimité par la double exigence d'un lien entre le motif tiré de la vie privée et les fonctions professionnelles et d'une incidence de cet élément sur le bon exercice des fonctions.
C'est la fin de notre podcast. Vous trouverez les références des arrêts cités sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci Alain.
À bientôt Florence.
Thank you.